Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle L'Exil. Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâchée depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part, nomades, entre deux rives.
Ibrahim Mahalouf.
Alors, je suis né au Liban, à Beyrouth, en novembre 1980. Mes parents vivaient en France à l'époque, mais le décès de mon grand-père maternel a amené ma mère à rejoindre sa famille au Liban le temps du deuil. Et puis, la guerre était un peu par intermittence. Il y avait des périodes où il y avait des bombardements, des périodes où c'était des accalmies, etc. Et il se trouve que au moment où ma mère s'est retrouvée au Liban, enceinte de 6-7 mois, pour faire le deuil, enfin de 7 mois d'ailleurs, pour faire le deuil de son père avec sa famille, des bombardements ont éclaté. Elle s'est retrouvée enfermée finalement au Liban dans l'impossibilité de revoyager en France. Et elle est restée pendant plusieurs mois au Liban. Et donc, elle a accouché de moi là-bas. Mon père était à ce moment-là en France pour un concert et pour des émissions de télé, notamment le grand échiquier de Maurice André, où il était invité donc par Jacques Chancel pour venir montrer au monde son invention, la trompette à quart de ton. Et donc au moment de ma naissance, mon père était en France en train de parler de cette trompette à quart de ton à la télévision française, et ma mère était en train d'accoucher de moi sous les bombes à Beyrouth. Et donc ça, forcément, donc cette disposition-là, ce contexte-là ont évidemment et nécessairement joué dans mon éducation ensuite, puisque la place que mon père a prise a été la place d'un musicien pédagogue qui m'a tout enseigné dans le domaine de la musique classique, de la musique orientale, arabe, et dans le domaine de la trompette et de tout ce qui est lié à la trompette de près ou de loin, classique et musique orientale. Et d'un autre côté, l'éducation que j'ai eue de ma mère, qui était évidemment une éducation à la fois très proche de ma culture libanaise et en même temps d'adoption, ma culture d'adoption, la culture française. Voilà. Moi, mes parents, ayant décidé d'être en France, n'étaient pas du tout dans un état d'esprit de vivre de manière définitive en France. C'est-à-dire qu'ils ne se voyaient pas comme des immigrés libanais qui s'établissent en France, comme beaucoup de Libanais ont fait. Eux, ils se voyaient, il se trouve que voilà, c'était un fait, mes parents avaient dans l'esprit qu'une fois que la guerre était terminée, ils devaient retourner chez eux, dans leur pays, dans leur maison, avec leur famille, etc. Sauf que la guerre, évidemment, a duré extrêmement longtemps, puisqu'elle a duré 17 ans, 17 années de guerre civile dans les rues, des bombardements, etc. Donc le pays s'est complètement délité. Et nous, par la force des choses, on vivait en France en attendant de revenir vivre au Liban. Donc, on parlait en arabe à la maison, on parlait libanais, puisque notre objectif, l'objectif de mes parents, c'était qu'on soit rescolarisé au Liban dès que la guerre est terminée. Donc, il ne fallait pas qu'on soit en décalage avec les enfants libanais. Donc, on parlait arabe à la maison, et l'objectif, c'était que, voilà, on rentre à un moment donné. Sauf que, voilà, ça s'est éternisé. On a été scolarisé en France, et parce qu'on a été scolarisé en France et qu'on parlait pas français, les premières années ont été assez difficiles. Je parlais très mal français, donc j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans, je maîtrisais pas du tout la langue française, je parlais uniquement arabe, et malgré tout, on m'a parachuté en plein milieu d'une école où tout le monde parlait très très bien français, et moi je comprenais rien. Donc forcément, il y a eu un énorme décalage au début. J'avais jusqu'au début du collège, non, jusqu'au milieu du collège, j'avais beaucoup de lacunes en français. Évidemment, j'ai rattrapé tout ça en lisant beaucoup à partir de la quatrième, troisième, la fin du collège, et au lycée, j'ai énormément lu. Mais jusqu'à cette époque-là, jusqu'au milieu du collège, à peu près, on va dire jusqu'à l'âge de 11-12 ans, j'avais vraiment beaucoup de lacunes en français. Et mon intégration sociale était très compliquée. J'étais dans une école catholique privée de la ville d'Étampes où mon père avait eu la chance d'avoir un poste de prof de trompette au conservatoire municipal d'Étampes. Et il se trouve que le hasard, mais c'est quand même complètement insensé, c'est que cette école privée catholique était une école tenue par des sœurs libanaises. Et donc mes parents pensaient que du coup, ça allait être quelque chose de positif, pour quelque chose qui allait m'aider, puisque c'était des sœurs libanaises, qu'elles comprendraient ma situation, etc., etc. On était, je crois, les deux, moi et ma sœur, les deux réfugiés, si tu veux, libanais dans cette école. Or, elle était tenue par des sœurs libanaises. Donc, et on pensait être bien reçus, bien compris, etc. Et finalement, en fait, il s'est passé le contraire, c'est-à-dire qu'il y a eu une exigence de la part des professeurs, des instituteurs, institutrices et des cadres religieuses qui ont été il y avait une exigence qui a été extrêmement difficile à gérer pour moi, enfant, qui d'un seul coup me suis senti complètement abandonné en fait. Et ça s'est très 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 mal passé dans cette école jusqu'à ce que à 11 ans, je quitte l'école en pleine journée, en plein cours. Je claque la porte de la salle de cours avec mes affaires et je rentre à la maison à pied. Et je dis à ma mère, maman, je ne veux plus jamais aller à l'école. Et donc à partir de là, mes parents m'ont mis dans une école publique, une école publique laïque donc. Et là, ça s'est d'un seul coup beaucoup, beaucoup mieux passé pour moi. Je crois que les enfants, enfin pas tous évidemment, hein, mais il y avait quelques enfants qui étaient scolarisés avec moi dans cette école. Qui avait vraiment visiblement beaucoup beaucoup de mal à comprendre qu'un arabe pouvait être chrétien par exemple ou qu'on pouvait être arabe en France, etc. Donc il y avait je m'étais pris pas mal de remarques petit, je rentrais à la maison en pleurant sale arabe, etc. Donc j'avais beaucoup de mal avec ça petit. Puis après évidemment à l'école laïque les choses se sont beaucoup équilibrées puisque je me suis retrouvé dans une école où il y avait de tout. De toutes les identités, de toutes les nationalités, de toutes les religions. Et là, d'un seul coup, on m'a accepté de manière beaucoup plus humaine, on va dire. Je pense que je comprenais ce qui se passait, mais je ne mettais pas des mots dessus. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, je me rendais compte, j'étais assez tôt, du coup, éveillé à cette notion de la différence, mais je ne mettais pas forcément des mots dessus. Et quelque part, tant mieux, parce que je pense que ça m'aurait plongé dans un truc un peu, pas victimaire, mais je pense que je me serais dit, bon, je suis une victime, etc. Alors qu'à l'époque, je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je voyais cette différence d'appréciation. Je voyais que les gens ne comprenaient pas. Je voyais bien, je le constatais, mais je me disais, mais c'est dommage, c'est eux qui sont idiots, pourquoi ils ne comprennent pas? Je ne me disais pas, moi, je suis une victime. Je me disais toujours... Même petit, je me disais non, mais je vais trouver une solution, quoi. Je vais montrer qu'il se trompe. Ça a participé à construire, je pense, à la fois mon discours de citoyen français, et ça a participé certainement activement aussi à la manière avec laquelle je défends ma musique. Je défends ma musique sur plein de terrains différents. Alors ça peut être sur scène, ça peut être dans la musique de film, mais c'est aussi beaucoup de pédagogie. J'enseigne depuis que j'ai 17 ans, donc ça va faire 24 ans que j'enseigne, 23 ans, 24 ans que j'enseigne. Ça a été au début dans le privé, ensuite c'était dans les conservatoires municipaux, puis les conservatoires régionaux. Ensuite j'ai créé une classe au conservatoire de Paris, à la rue de Madrid, une classe d'improvisation pendant 6 ans, j'ai enseigné à des musiciens classiques à improviser. Tout ça en fait contribue, si tu veux, à un message que j'essaye de communiquer, qui est un message humain, mais qui passe par la musique, par les notes. Voilà. Et je pense que ça a été nourri, cette volonté-là d'aller dans cette direction-là a été évidemment nourrie par les sentiments que j'ai pu avoir plus jeune, les sentiments d'incompréhension que je pouvais susciter ou vivre ou expérimenter. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, moi, parce que je l'ai vécu, je sais que, ça ne veut pas dire tous, hein, mais une grande partie des personnes qui fuient leur pays le font vraiment à contre-cœur. Nous, en tout cas, et je sais qu'il y en a beaucoup dont c'est le cas, nous souffrions, moi, mes parents, hein, je parle, hein, souffraient vraiment de ne pas être chez eux. Pendant longtemps, et ce traumatisme de l'exil a été extrêmement pesant dans ma famille, et spécifiquement pour mon père, qui même encore aujourd'hui, après avoir quitté le Liban il y a pratiquement 50 ans, plus de 50 ans, est capable de dire « Mais moi, je ne vis pas en France, moi je suis là juste parce que le zourouf, comme on dit en arabe, c'est-à-dire les événements, la situation a fait que j'étais obligé de partir, mais je reviendrai dans mon pays. » La seule qui a dû faire un choix à un moment donné, c'était donc ma grand-mère maternelle, qui, voyant que tous ses enfants sont partis vivre en France pour échapper à la guerre et qui la suppliait de les retrouver, a fini par céder, alors qu'elle ne voulait certainement pas quitter son pays, parce qu'elle adorait vivre au Liban, c'est son pays, enfin, c'est sa vie. C'est comme si on nous demande aujourd'hui de quitter la France de force, quoi, on n'a pas envie. Donc elle adorait le Liban, elle avait un magasin de fringues en plein centre-ville de Beyrouth, c'était sa vie, quoi. Elle avait tout construit là-bas, elle avait éduqué ses enfants là-bas, elle avait toutes ses amies, ses cousines, ses frères et sœurs, etc. Donc de lui dire de partir parce que c'est la guerre, ça a été très 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 difficile pour elle. Elle a mis très longtemps à le faire. Finalement, en effet, au milieu des années 85-86, elle a fait finalement le choix quand même de retrouver sa famille en France. Et ça a été très, 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 très compliqué pour elle. Et même 40 ans plus tard, même là, il y a encore quelques jours avant sa mort, elle nous disait encore « Amenez-moi au Liban, amenez-moi dans mon village, je veux être dans mon village, je veux être chez moi. » Je pense que l'histoire de mes parents, l'histoire de mes grands-parents, c'est constamment l'histoire de gens nomades. Donc, quelque part, dans la manière avec laquelle on m'a appris à voir le monde dans lequel je vis, c'est de toujours considérer que rien n'est acquis. Donc, la vie que je mène aujourd'hui, je sais qu'elle peut être bouleversée. La paix qu'on a, dans laquelle nous vivons aujourd'hui et qu'on a la chance de connaître en France et globalement en Europe ou en Occident, c'est quelque chose qui est relatif. C'est assez anxiogène d'y penser, je dois l'admettre. Et puis, les périodes qu'on traverse ces dernières années... et puis cette apologie de la guerre civile, et puis ces problèmes de terrorisme, etc., font qu'on sent, on sent de plus en plus cette instabilité latente. Mais je dois avouer que l'histoire de mes parents et l'histoire de mes grands-parents font que nécessairement, par définition, mon éducation a été basée sur le fait que nous sommes potentiellement des voyageurs. Je ne crois pas que la manière avec laquelle je pratique la musique ou la manière avec laquelle j'aime enseigner ou transmettre mon amour de la musique, je ne crois pas qu'il soit lié, que ce soit lié à mes origines. Mais par contre, c'est lié au fait même que je suis issu de cultures différentes. Moi, je pense qu'on est tous biculturels. Même des personnes qui sont d'origine française depuis plusieurs générations, qui n'ont jamais quitté la France, qui sont complètement baignés dans cette culture française et qui ne connaissent pas d'autre éducation que l'éducation à la française. Aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous vivons, ce que je disais tout à l'heure, ils font partie de la génération Internet. C'est-à-dire que dans leur téléphone, dans leur smartphone, dans leur poche, toutes les cultures du monde sont accessibles gratuitement à n'importe quel moment. Et en quelques secondes. Ce qui fait qu'on est baigné, par exemple, de culture américaine par le cinéma, on est baigné de culture italienne par le cinéma, on est baigné de culture baroque, italienne, allemande par la musique classique, on est baigné de culture, etc. On est baigné de culture noire ou africaine par les musiques jazz, rock, blues, etc. Ou par le hip-hop, on est baigné de toutes ces cultures-là qui sont accessibles en un coup de baguette magique, et grâce à l'environnement dans lequel nous vivons, font qu'on est tous devenus des gens multiculturels, en fait. Et donc, on est tous inspirés par cette multiculturalité-là. Qu'on le veuille ou non, et que ça plaise ou non à ceux qui font la guerre à la multiculturalité, au final, ils le sont eux aussi. Et ça me fait rire, parce que c'est absurde, quoi, parfois, parce que vous avez des gens qui se battent contre la multiculturalité, sauf que le soir, quand ils rentrent chez eux, ils mangent un burger, ils allument la télé, ils regardent une série américaine, ils lisent un bouquin d'un écrivain français orientaliste, etc., etc. Et en fait, ils se rendent pas compte qu'en fait, ils sont complètement multiculturels. Quand l'UNESCO me donne un prix d'un artiste œuvrant pour la paix entre le monde occidental et le monde arabe, je vois à quoi on fait référence et je comprends pourquoi on me donne cet attribut-là. Voilà, je comprends d'où ça vient et pourquoi. Parce qu'en effet, je crée une musique qui en effet est une sorte de transmetteur, de traducteur. Culture arabe, culture occidentale. Donc je le vis très sereinement, ce truc-là, et j'ai pas de soucis avec ça, mais je l'ai jamais fait exprès, et je n'ai jamais voulu être le porte-parole de quoi que ce soit ou le représentant de quoi que ce soit, ou je n'ai jamais cherché à faire de patchwork entre ma culture arabe et ma culture occidentale. Jamais de la vie j'ai pensé des choses de cette manière-là. Moi, je pense musique, j'écoute de telle musique, j'écoute de telle et telle musique, je les mélange ensemble parce que j'adore ça, et au résultat, voilà, c'est hyper animal, c'est hyper instinctif, c'est hyper simple. Il n'y a aucun engagement ni politique, ni sociétal, ni social derrière tout ça. C'est vraiment la musique parce qu'elle me parle, parce que je l'aime, et parce que quand je fais de la musique et que ça plaît autant à des Arabes que à des Occidentaux, que à des... Et d'ailleurs, ça va même plus loin que ça, parce que ça me rend heureux. Et ça va même plus loin que ça, parce que il y a même à une époque où ça m'arrivait, parce que dans les interviews, on me posait des questions et tout, je disais, vous savez, moi, je trouve ça génial que, par exemple, des gens qui ne votent pas la même chose que moi viennent à mes concerts, par exemple, qui n'ont pas les mêmes croyances religieuses que les miennes viennent à mes concerts. On me disait, ah bon, mais vous êtes sûr? Je dis, ben oui, bien sûr. Ils disaient, mais s'il y a des gens du Front National qui viennent vous écouter, vous n'êtes pas choqués? Je disais, mais vous rigolez ou quoi? Au contraire, je serais super content qu'ils viennent. Parce qu'en fait, j'ai envie de leur montrer... que peut-être il y a certaines choses dans leurs idées qui peuvent peut-être évoluer, parce qu'en se disant, ah bah tiens, finalement on a bien aimé ce qu'il a fait, ce petit arabe, ça va peut-être les faire changer un peu d'avis, etc. Donc je me disais, au contraire, et je le pense toujours ça, en fait, qu'il faut que nos cultures soient très très ouvertes à ces différences-là, mais à aucun moment mon choix artistique n'a été guidé par une volonté d'unir. C'est arrivé parfois, je pense à un exemple en particulier, qui est un souvenir absolument magique, où j'ai senti que j'étais presque en train de faire de la pédagogie, mais presque à mes dépens. Je n'avais pas du tout vécu ça comme ça avant de constater. C'était au Lincoln Jazz Center. Je me souviens très très bien de ce moment-là où je l'ai senti, où je l'ai vécu vraiment de plein fouet. C'était au Lincoln Jazz Center à New York, où j'avais plusieurs concerts dans un endroit qui s'appelle le Apple Room, qui est une grande salle de concerts de jazz à New York. Le Lincoln Jazz Center, c'est un peu le temple du jazz dans le monde, quoi. Et j'avais été invité par Wynton Marsalis pour une série de concerts. Et mon programme à ces concerts-là, c'était une reprise de Um Kulthum, Donc c'est une grande chanteuse, une grande diva égyptienne, mais en version jazz new-yorkais. Donc j'étais accompagné par des musiciens new-yorkais, parmi les meilleurs musiciens new-yorkais. Je pense à Mark Turner, qui est un des plus grands saxophonistes de jazz aujourd'hui. Je pense à Larry Grenadier, contrebassiste, etc. Et puis il y a Frank Voss d'ailleurs aussi, un musicien français d'origine allemande, qui travaille avec moi depuis plus de 11-12 ans, et qui m'accompagne également à cette série-là. On était en train de jouer Oum Kulsoum, mais en quintette de jazz, en plein dans cette salle bondée de monde, donc des New-Yorkais qui aiment le jazz, qui viennent écouter Malouf, Ibrahim, qui vient leur jouer Oum Kulsoum en quintette de jazz avec des supra putain de musiciens de jazz américains. Et donc, dans le public, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y avait un Égyptien dans la salle qui... Moi, j'entendais un truc, j'entendais quelqu'un chanter, mais de loin, je m'étais pas vraiment rendu compte. Et en fait, comme moi, j'avais écrit cette pièce, j'avais fait une transcription d'une très, très grande chanson de Oum Kulsoum qui s'appelle Al-Fulayla wa Layla, en version jazz, j'avais suivi la mélodie principale de la voix de Oum Kulsoum à la trompette. Donc, moi, je jouais ce que Oum Kulsoum chantait. Et donc, il y avait quelqu'un qui chantait en parallèle pendant que je jouais, qui chantait les paroles de la chanson en même temps, pratiquement pendant tout le concert. Et en fait, au début, moi, j'étais un peu gêné. Ça me dérangeait un peu, ça, les 10, 15 premières minutes, le premier quart d'heure du concert. Je me disais, mais il est relou, le gars, là, quand même. Il va continuer à chanter, là, pendant tout le truc. Et en fait, il s'est passé un truc assez étonnant. Le public n'a pas du tout été gêné par lui. Donc, c'était un public dont l'immense majorité étaient des Américains qui viennent écouter du jazz. Donc, je sais pas... Je sais plus, 1000 ou 1200 personnes, je sais plus combien, assis dans la salle en train d'écouter. Il y a cet Égyptien qui pouvait pas s'empêcher, parce que pour lui, Oum Kulsoum, c'est une déesse, quoi. Il pouvait pas s'empêcher, d'un seul coup, il y avait un sentiment de nostalgie tellement, énorme qu'il arrivait pas à se contenir. Et il se sentait obligé de chanter, voilà, ça. Et les gens, en fait, n'ont pas eu de réaction désagréable. Ils étaient en admiration, c'est-à-dire qu'ils le regardaient. Il me regardait, c'est comme si on faisait un concert à deux, en fait. Et les gens le regardaient. Et en fait, il a été une sorte de lien entre moi et eux pendant tout ce concert. On en a fait plusieurs, mais je me rappelle que c'était un de ces concerts-là. Ils chantaient en même temps. Et donc, les gens ont compris que ce que j'étais en train de faire, c'était en fait de la musique traditionnelle devenue classique arabe, mais que je la racontais avec leur vocabulaire à eux. Et ça a eu un effet pédagogique hyper fort, en fait. Et le public a beaucoup mieux compris ce que j'étais en train de leur proposer parce qu'il y avait cet Égyptien qui était en train de chanter en même temps que moi de tout son cœur. Je pense que tout à l'heure, tu me posais une question sur le lien qu'il y a entre mon travail et le sentiment d'exil, etc.
Ouais.
Moi, je pense que... Une des choses que j'ai beaucoup, beaucoup développé ces derniers temps, c'est l'improvisation, le travail d'improvisation, mais pas du tout comme les gens l'imaginent. Et la manière avec laquelle je l'envisage, je pense, est beaucoup liée à cette idée que nous devons construire un nouveau monde à partir de nos différences. Et je sais, ça peut paraître très cliché ce que je suis en train de dire, mais au final, c'est pas anodin. C'est pas anodin parce qu'on est tous différents, on a tous des cultures, des éducations. On peut pas avoir un peuple tous pareils, tous identiques. Ou alors c'est qu'on vit pas en France, quoi. La France est un pays quand même qui s'est construit sur la diversité, sur des gens venus d'un peu partout. Alors c'est pas l'Amérique, certes. On a une histoire, on a une histoire gauloise, mais malgré tout, on peut pas ignorer que dans le sud il y a eu les Catalans, en Bretagne il y a eu les Celtes, etc. En Alsace il y a eu les Germaniques. Si on ignore ça, c'est qu'on n'est rien à la France quand même. Et donc, quand bien même la musique classique s'est construite à partir de la diversité des instruments venus de la Renaissance, et les instruments de la Renaissance sont liés aux cultures du Moyen-Âge, et donc ce que beaucoup de gens oublient dans la musique, et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça, mais beaucoup de gens oublient que la musique classique est un héritage de la musique arabe. La musique de la Renaissance, la musique du Moyen-Âge, se joue avec des darbouka et des rababs. Les rababs, c'était les anciens violons arabes. ça se joue avec des instruments arabes, avec des bendirs, avec des darboukas. Et donc les gens oublient d'où ils viennent. La musique classique, parfois, peut avoir tendance à oublier d'où elle vient aussi. Et la part d'improvisation qu'il y avait dans la musique classique a complètement disparu depuis presque 2 siècles. Et l'improvisation, telle que moi je la pratique, c'est pas simplement tu prends ton instrument, tu inventes des trucs et tu t'éclates avec tes potes. C'est pas vraiment ça. C'est l'idée que les musiciens classiques, pour renouveler l'art de la création, l'art de la composition classique, pour qu'elle soit plus en adéquation avec l'époque dans laquelle on vit, que cette musique contemporaine un peu absurde, que très peu de gens finalement écoutent, doit être renouvelée par l'improvisation et par la création de ceux qui la vivent aujourd'hui et de ceux qui sont capables de la recréer aujourd'hui à notre époque. Et donc je crée des séances d'improvisation où plein de gens, qui ne sont pas forcément tous de très bons musiciens, parfois ça peut être d'excellents musiciens, des virtuoses, et puis parfois ça peut être des musiciens un peu moins bons, mais on se réunit tous ensemble et on crée un moment d'improvisation et je les guide, je leur apprends à le faire parce que c'est pas forcément évident. Et malgré les différences entre les uns et les autres, malgré des instruments qui peuvent ne pas être compatibles, malgré des personnalités qui peuvent ne pas être compatibles, on finit par apprendre à créer une musique tous ensemble, en direct, en live, et ça sonne bien. Et ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup, beaucoup perdu. Et je pense que c'est une forme de philosophie artistique, en tout cas qui se concrétise par l'artistique, et qui est nécessairement une vision du monde et du monde artistique et de la création artistique qui est liée, je pense, à cette notion d'exil. Parce que quand tu connais la différence, quand tu l'as vécu cette différence, quand tu t'es pris dans la gueule pendant des années, l'adversité parce que différence, tu te dis, il faut que je compose avec ça. L'expression, il faut improviser quelque chose, il faut composer quelque chose, il faut réussir à s'en sortir. Et cette composition-là, c'est de l'impro.
Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.